Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Au fil des pages, avec Jean Sévilla pour Moralement Correct, recherche valeur désespérément aux éditions Perrin. Moralement Correct, et l'on sait bien que l'Académie des sciences morales et politiques s'intéresse inévitablement à ces questions, et tout ce qui a trait à la morale. Encore faudra-t-il d'ailleurs définir ce qu'est la morale précisément. Cette morale est-elle intangible ou a-t-elle évolué au fil des années? Bonjour Jean Sévilla.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, historien, essayiste. Alors, on vous connaît bien à travers le mot correct, hein, déjà historiquement correct, qui a connu un grand succès chez le même éditeur d'ailleurs. Le terrorisme intellectuel, c'était ce qui avait précédé et qui avait en quelque sorte ouvert cette... pas forcément cette trilogie. Vous l'aviez déjà conçu en fait comme étant d'abord commencé par l'histoire, ensuite par la morale. Vous aviez conçu un peu ce plan de réflexion?
Non, c'est une... On a employé le mot de trilogie, mais en réalité, ce n'est pas un plan préconçu et ce n'est pas une trilogie préconçue. C'est une construction au fur et à mesure, un développement d'une logique qui pourrait se poursuivre parce que la correction se manifeste sur tous les plans. Alors, on pourrait faire un esthétiquement correct, un démographiquement correct, un économiquement correct, etc. etc. Donc, la liste est infinie.
C'est inépuisable. Malheureusement. Et quelque peu inquiétant.
Malheureusement, oui, le phénomène est multiforme, permanent, et je pense qu'il tente à s'aggraver. On est dans une époque très paradoxale qui exalte la liberté et qui, en réalité, cette époque se trouve extrêmement gênée devant les pensées rebelles et entend les faire taire. Alors, je vous remercie de donner et d'accueillir souvent des voix dissidentes qui disent des choses qui sont des choses de bon sens d'ailleurs, mais qui aujourd'hui ne plaisent pas à un certain micro-milieu parisien. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à penser librement, à débattre librement, en dépassant précisément ces interdits, ces oukases d'une certaine intelligentsia.
Oukase dont on ne sait pas vraiment d'où ils viennent, si ce n'est qu'il y a une forme de conformisme.
Hein. C'est du conformisme pour beaucoup. Ce ne sont pas des oukases. J'ai employé le mot d'oukase, c'est une façon de parler. Il n'y a pas un complot qui interdit, qui contrôle la pensée. Mais il y a une sorte de conformisme qui fait qu'il y a des choses qui ne se disent pas, des thèmes qui ne sont pas à la main, qui ne fait pas bon traité. Donc il y a des gens qui fuient, des gens qui se dérobent. Eh bien, moi, je ne me dérobe pas.
On va entrer dans le détail du sujet, mais tout d'abord, vous avez l'air de dissocier en quelque sorte l'intelligentsia, micro-milieu parisien, du reste de la population, mais au contraire, n'est-ce pas plutôt des valeurs ou plutôt des antivaleurs, puisque ce dont vous parlez dans votre ouvrage, ce sont ce basculement de valeurs survenu dans les années 70. Est-ce que ça n'est pas enkysté en profondeur dans la société française? Et est-ce que des personnes comme vous ne sommes pas somme toute extrêmement marginales?
Alors, il faudrait entrer un petit peu dans le détail de l'analyse. Je crois qu'il y a une morale revue par le politiquement correct, ce que j'appelle le moralement correct. Je crois qu'elle émane au départ d'un micro-milieu. C'est ça, je maintiens cette analyse. Mais il est vrai que les idées de ce micro-milieu, en même temps, ont imprégné la société. La société a été profondément marquée par le changement des mentalités qui s'est opéré dans les années 60 et 70. En même temps, les gens ont accepté, intériorisé au fond cette révolution mentale, mais c'est très important, tous les sondages prouvent que, je schématise, 70% des Français estiment que les valeurs traditionnelles ne sont pas assez défendues en France. Alors, c'est là où il faut un petit peu entrer dans les détails, c'est un paradoxe, et c'est là où il faut entrer dans les détails, parce que, au fond, que veulent dire les gens par valeurs traditionnelles? C'est là où il faut discuter.
Alors, précisément, justement, valeurs traditionnelles, les valeurs tout court. Je commencerai simplement, si vous le voulez bien, pour inaugurer cet au fil des pages, par votre chapitre 10 intitulé France Culture. C'est Olivier dont vous parlez qui enseigne la littérature dans une université parisienne. J'ai 40 ans, raconte-t-il, mais ma relative jeunesse ne me sert à rien pour comprendre mes étudiants. J'ai le sentiment d'être au-delà d'une mutation culturelle. La plupart n'ont aucun rapport affectif avec le livre. À la fin de l'année, ils revendent leur manuel, même si sa lecture est conseillée pour le programme, ils revendent aussi la Divine Comédie. Le désarroi de ce professeur confirme, dites-vous, les conclusions des enquêtes. Le noyau des dévoreurs de livres se maintient, mais l'immense majorité des étudiants lisent beaucoup moins que dans les années 70. Et alors, chose, vous analysez le phénomène et vous dites que c'est peut-être le... Enfin, c'est une question que vous posez. Est-ce vraiment le statut de l'objet livre qui a évolué ou est-ce notre société qui se détache d'une culture bimillénaire ayant toujours été véhiculée par l'écrit? Est-ce que vous avez une réponse à cette question?
J'ai une question, elle est posée dans le livre. Je n'ai pas une réponse précise, mais je tente à croire. Mille indices, malheureusement, traduisent un désenchantement, une distance aujourd'hui prise à l'égard de tout ce qui est culture classique. Or, la culture classique a toujours été véhiculée par l'écrit. Je fais droit et aux nouveaux moyens de communication. Hein, je ne les refuse pas du tout. Je ne suis pas enfermé dans une nostalgie qui, absurde d'ailleurs, parce que les sociétés ont toujours évolué. Maintenant, y a tout un corpus de doctrine, de littérature, de philosophie, d'esthétique, qui était le fond de la culture classique, qui toujours est passé par l'écrit, même si cet écrit, peut-être transmis de façon électronique, était lié à l'écrit. Or, aujourd'hui, on constate une distance et un détachement vis-à-vis de ce patrimoine de civilisation. Or, cela introduit, à mon sens, une profonde crise culturelle parce que c'est une rupture. Et cette rupture de transmission dans notre culture amène une rupture dans notre conception de l'homme, dans notre conception des rapports au sein de la société, dans notre conception sur le rapport entre le sacré et le temporel, entre l'individuel et le collectif. Et c'est tout notre regard sur la société et notre regard sur l'homme individu qui change à partir du moment où on change de paradigme par rapport à ceux qui avaient été véhiculés depuis les Grecs, les Romains, Jérusalem, la société chrétienne, etc. etc. Même la révolution des Lumières, d'une certaine manière, est aussi appartient, qu'on le veuille ou non, au patrimoine de civilisation occidentale. C'était une page de notre histoire. Tout peut être critiqué, mais cet ensemble existe. Or, à partir du moment où on rompt avec lui, eh bien, on entre dans une zone inconnue.
Alors, si je citais cet exemple, c'était pour vous demander si ce n'était pas exagérer le rôle de l'écrit que d'affirmer cette chose-là, puisque, somme toute, pendant des années, et des années, des années, des décennies et des siècles, c'est la tradition orale aussi qui a prévalu et que le poids de l'écrit est relativement récent.
Écoutez,
dans les
la
consciences.
Tradition orale, l'écrit et la tradition orale ont toujours existé. Bien sûr que la tradition orale était très importante, mais l'écrit a toujours été...
Pour une minorité.
Oui, pour une minorité. Enfin, c'était toujours le lieu de la culture de référence. La culture de référence passait en Grèce, à Rome, même chez les Égyptiens, même au Moyen-Âge, même les copistes du Moyen-Âge étaient peut-être peu nombreux, mais ils maintenaient la culture de référence. Aujourd'hui, à partir du moment où l'écrit recule, c'est aussi la culture de référence qui recule. Et d'ailleurs, on ne veut plus qu'il y ait une culture de référence. On est fondamentalement dans cette idée du multiculturalisme, c'est-à-dire l'idée que toutes les cultures, tous les héritages culturels se valent. Or, moi, je pense que tout héritage culturel a une valeur en soi, bien entendu, mais il se trouve que nous, Français occidentaux, sommes issus et héritiers d'une culture, et celle-ci a forcément une valeur plus importante pour nous, en ce sens qu'elle nous a constitué, qu'elle a constitué tout notre patrimoine. Or, si nous renions cette culture, nous nous renions nous-mêmes.
Est-ce qu'il n'y aurait pas une constante, somme toute, au fil des siècles, la culture de référence, ça n'a jamais été que l'apanage d'une minorité qui se l'est transmise, et la majorité a toujours vogué au gré des idées?
À partir du moment où il y a une culture de référence, cette référence se transmettait. L'Église, par exemple, dans nos vieilles sociétés de christianisme, l'Église a été un élément civilisateur parce que à partir de textes de référence, en l'occurrence des textes sacrés qui sont ceux de l'Écriture, l'Église les a transmis, y compris sous sa façon orale, parce qu'il y avait une tradition tradition orale d'apprendre les textes de l'écriture, ou éventuellement aussi par des images, puisque les cathédrales, c'est du catéchisme en images, en quelque sorte. Ça n'empêche qu'au départ, il y avait une source commune qui était fixée par l'écrit. Donc, il y avait au départ un invariant écrit. Et l'école, même l'école républicaine, l'école des hussards de la Troisième République, se fondait et se donnait pour tâche de transmettre un patrimoine de littérature, de culture, qui était un patrimoine écrit au départ. Et cela pouvait aller, dans les couches les plus simples de la population, ce qui veut bien dire qu'on peut transmettre. D'ailleurs, de ce point de vue-là, l'école de la République était l'héritière des méthodes des vieilles écoles chrétiennes qui a été fondée dès le Moyen-Âge. Et donc, on peut transmettre une culture de référence à toute la population, encore faut-il en avoir l'ambition.
C'est ce que vous écrivez d'ailleurs en quatrième de couverture de votre ouvrage. Tous les Français naguère étaient élevés selon des valeurs identiques. Il existait une France de gauche, une France de droite, une France laïque, une France chrétienne, mais la morale de l'instituteur à celle ressemblait à celle du curé. Cette morale n'était pas forcément observée, mais elle définissait les normes du bien et du mal. Donc il y avait une transmission qui se faisait, y compris dans la confrontation, et certainement peut-être d'ailleurs d'abord par la confrontation. Et donc les normes s'édifiaient ainsi. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
Ce n'est plus le cas, on est dans l'éclatement des normes. La révolution des années 60-70, c'est une révolution individualiste, c'est-à-dire qu'on a posé l'idée que l'individu est la norme suprême et la valeur suprême. Et à partir du moment où chaque individu définit ses propres normes, définit ses propres codes, définit ses propres règles, si rien ne peut lui être imposé, eh bien c'est l'éclatement du lien social, parce qu'à ce moment-là, il y a autant de codes qu'il y a d'individus. Et donc, or, une société, qu'on le veuille ou non, repose sur des compromis, repose sur des équilibres, repose sur des règles collectives librement acceptées. Et plus elles sont librement acceptées, moins la société a besoin d'user de la force ou de la procédure, ce qui peut donner une société de grande liberté quand les interdits, moi j'ai pas peur du mot interdit, il faut des interdits, j'en suis désolé, mais interdire d'assassiner, eh bien c'est un progrès de la civilisation. Sinon, on retourne à la barbarie. Je veux dire, si on lève la notion d'interdit, eh bien, c'est la loi de la jungle, je vois, c'est la loi de la préhistoire. Je veux un quartier de viande, je prends celui de mon voisin, cette femme me fait envie, je la prends, etc. La civilisation suppose, la société suppose des règles collectives, des barrières.
C'est l'absence d'interdit qui conduit au recours excessif à la loi, à la répression tous azimuts, puisqu'on ne maîtrise plus le corps social qui ne se maîtrise pas lui-même, puisqu'il n'a plus aucune norme auquel se référer.
Exactement.
Jean Sévilla, est-ce que au cours des années 60-70, vous-même, vous aviez eu le sentiment que cette mutation culturelle, vous la viviez en direct ?
On voyait les choses changer. Moi, j'ai eu, vos auditeurs seront mon âge, j'ai eu 20 ans en 1972. Je voyais bien que le monde changeait, que la société changeait. Maintenant, quand moi j'ai des enfants qui ont 20 ans, eh bien mes enfants qui ont 20 ans aujourd'hui, en 2007, ne vivent pas dans la société dans laquelle je vivais moi à 20 ans. La société a profondément changé. Nous avons changé de société. On n'en a pas tous été conscients quand on vit un changement de civilisation.
Parce ça ne que se fait pas en un jour.
Ça ne se fait pas en un jour. Et puis ce sont des phénomènes, ce sont 1000 petits phénomènes, 1000 petits ruisseaux qui, accumulés les uns les autres, finissent par former des grandes rivières qui forment des fleuves. Or, quand on est pris dans le mouvement, on ne s'en rend pas compte. C'est avec le recul du temps, et c'est précisément, c'était un des objectifs que je me suis fixé avec ce livre, Moralement Correct, c'était de montrer, de voir moi-même, parce que on vit tous, on est tous dans ce mouvement, on est pris tous dans ce mouvement, et donc on ne se rend pas compte combien les choses ont changé. Et il faut du recul, il faut se retourner en arrière, enfin se retourner donc, pour voir mais quel chemin parcourir, quel chemin, bon sens ou mauvais sens, et on voit que énormément de choses ont changé.
Ce qui est vertigineux, c'est la rapidité avec laquelle les choses se sont faites.
Elles se sont accélérées en plus. Elles se sont accélérées depuis 10-15 ans, je trouve, depuis les années 80. Il y a une accélération qui est liée à tout, au fait que nous sommes dans un univers où tout bouge, le monde de la mondialisation, où il n'y a plus de frontières, on voyage, tous les peuples se retrouvent n'importe où. partout, on voit la facilité de voyage, facilité des communications techniques, technologiques, financières, une égalitarisation du monde, Internet, le portable, tout ça fait que la planète est devenue comme une boule de billard où tout roule et on a l'impression que tout se passe en temps réel et partout, on est partout en même temps. C'est vertigineux, oui, il y a une accélération. Oui.
Jean Sevilla, vous êtes avec nous pour parler de moralement correct. On se retrouve dans quelques instants.
Il est là, il est venu, le chevalier des mots, celui qui s'est battu sans peur et sans reproche pour que vive le bon français, qui nous a fait aimer la lecture et même l'orthographe, vous l'aurez reconnu, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie. Et quand il parle du vin, son vocabulaire devient gouléon, on croirait qu'il déguste les mots français. C'est un régal, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie.
Au fil des pages avec Jean Sevilla, essayiste, journaliste, historien, aux éditions Perrin, moralement correct, recherche valeurs désespérément. Et nous sommes à la recherche justement de ces valeurs dont nous voyons bien qu'elles se sont effilochées depuis les années 70, voire qu'elles ont disparu. Mais avec un paradoxe que vous soulignez au début de cette émission, à savoir que 70% des Français restent attachés à des valeurs telles que l'autorité, par exemple, la famille. C'est justement parce qu'apparemment ils en manquent qu'ils sont attachés et qu'ils rêvent peut-être ces valeurs.
Oui. Avec cette nuance qu'il y a des changements qui sont intervenus et qui ont été profondément intériorisés par la population. Si on prend l'exemple de la famille, par exemple, qui est un exemple intéressant, 85 ou 90% des Français plébiscitent la famille. Les Français sont tous pour la famille. Il reste que, dans le même temps, on s'aperçoit que 2 couples sur 3 divorcent, que les Français, quoi qu'on en dise, ont peu d'enfants, et qu'ils ne sont jamais prêts à sacrifier leur bonheur individuel pour les contraintes qu'imposerait une notion familiale traditionnelle. La famille, dans le sens traditionnel, c'était on s'inscrivait dans une lignée, dans une continuité de génération. Or, aujourd'hui, la famille d'aujourd'hui, en réalité, c'est un couple, c'est un homme et une femme, voire un homme et un homme et une femme et une femme, puisque ça fait partie des prédicats de l'époque, toutes les sexualités se valent. Et
tout est facultatif, optionnel.
Tout est facultatif, optionnel, voilà. Et donc, ce couple a éventuellement un enfant, 2 enfants à la rigueur, mais c'est un enfant puisqu'il a été désiré, puisqu'on est dans le monde de la contraception, et bien attendu, voulu, et bien cet enfant est l'enfant roi. Il y a une sorte de sacralisation de l'enfant. Et donc, mais cet enfant roi, dès que si son couple flanche, eh bien, on l'oublie. Et alors, à ce moment-là, on se sépare et en oubliant complètement l'enfant. Alors, éventuellement, on va le gâter matériellement, mais on ne voit plus aujourd'hui, c'est rarissime de voir des couples qui essayent de tenir uniquement pour... il y a 20 ans, on voyait encore ça, on essayait de maintenir son couple, de sauver son couple pour les enfants. Aujourd'hui, on n'a plus de soucis. On a cette idée que les enfants, eh bien, il s'en tirera comme ça, puisque de toute façon, tout le monde vit comme ça. Donc, et cette conception de la liberté, enfin de l'individu face au rapport amoureux, face au rapport familial, a été profondément intériorisée par la population. Et donc, les Français à la fois aiment la famille, mais ils plébiscitent la valeur familiale, mais ils restent extrêmement individualistes sur ce principe. Et le moralement correct fait qu'on ne veut pas trop voir cette question. Or, les conséquences, je ne dis pas cela, moi je suis journaliste historien, je ne suis pas là pour mettre des jugements de morale sur les gens dont la vie privée varie. C'est pas mon travail à moi, j'ai pas de légitimité pour ça. En revanche, comme analyste social, on peut se poser des questions, quelles sont les incidences sur la société de la fragilité actuelle des couples. Alors, les incidences sont considérables. Pour prendre un exemple tout simple qui a été dans l'actualité au cours de ces dernières semaines, ces derniers mois, on parle beaucoup de la crise du logement en France. Et c'est vrai qu'il y a une crise du logement qui est tout à fait considérable. Bon. Mais personne ne dit dans le débat public, et au moment de la campagne d'élection présidentielle, personne ne l'a dit parce que ça serait trop politiquement incorrect de le dire, c'est de l'importance de la crise de la famille et l'importance du taux de séparation des couples.
Qui oblige à trouver des logements séparés.
Voilà, c'est tout simple, c'est pas compliqué. Un homme et une femme vivent ensemble, du jour où ils ont un appartement, du jour où ils se séparent, ils ont besoin chacun d'un appartement. Donc il faut 2 appartements. Or, il y a des études qui ont été faites par des sociologues très précises qui montrent que la crise du logement actuelle est entre autres, ce n'est pas le seul facteur, mais entre autres, pour beaucoup, un des résultats du taux de divorcialité ou de taux de séparation, puisque souvent les couples ne sont même pas mariés, de séparation des couples. Mais ça, on ne le dit pas parce que précisément, il ne faut pas avoir l'air d'attenter à la liberté individuelle de chacun de faire sa vie comme il l'entend et de refaire sa vie éventuellement comme il le veut. Mais notre société est donc inconséquente. Elle pleure les conséquences de principes qu'elle-même sacralise.
Alors là, on fait coup double. Hein. On fait coup double sur le moralement correct et le politiquement correct.
Mais je suis désolé, je fais coup double. Oui, mais je crois qu'il y a des choses qu'il faut dire. C'est la réalité. Alors, personne ne veut les dire parce qu'on a peur. Ben, moi, je n'ai pas peur, je le dis. Voilà. Ce n'est pas un jugement sur les personnes. Je ne porte pas un jugement sur les personnes. Mais il y a effectivement notre conception actuelle du rapport amoureux, du rapport familial, de la façon dont on inscrit les rapports amoureux dans la vie sociale, a une profonde conséquence. L'individualisation du rapport amoureux a des conséquences sur toute la société, mais c'est toute la société qui en paye les conséquences.
Oui. Vous parlez même aussi de totalitarisme sexuel, alors dans le domaine de...
Oui, écoutez, ce n'est pas être un père la pudeur. Je veux dire, l'homme et la femme, depuis la nuit des temps, n'ont pas dédaigné les jeux de l'amour parce qu'ils font partie des impulsions et des aspirations de l'être humain. C'est une donnée naturelle. Maintenant, la part prise dans la sexualité, dans la culture contemporaine, est absolument folle. Enfin, je veux dire, on a fait de la sexualité une sorte d'activité en soi qui s'est autonomisée de la vie amoureuse, de la vie familiale. Donc ce n'est pas être un père la pudeur de constater que la place prise par la pornographie est considérable. Ce sont des chiffres qui sont aussi, je les donne dans mon livre.
Oui, vous les citez, ils sont accablants, hein, d'ailleurs.
Ils sont accablants. Or, la pornographie a des profondes conséquences, les films pornographiques, la pornographie a des profondes conséquences psychologiques sur les enfants. Or, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a des enfants de 10, 12 ans qui consomment très couramment des films pornographiques. Mais c'est désastreux pour eux-mêmes, pour leur future sexualité d'ailleurs, même sur ce plan-là, puisque ça leur induit une sorte de représentation fantasmatique du rapport homme-femme, où l'homme est toujours en chasse et la femme... toujours en attente d'être chassé, ça va produire en réalité une génération de malades et de frustrés, de gens qui ne seront incapables d'avoir une sexualité
donc
normale.
Donc de violence potentielle.
Donc de violence potentielle, absolument. De gens qui seront incapables d'avoir une sexualité normale, une sexualité amoureuse normale, parce qu'ils vont tout concevoir dans le désir brut, dans la violence. En effet, s'il est normal qu'une femme vous dise oui tout de suite, bien si elle ne vous dit pas oui, ben on la prend de force. C'est ce qui est tournante dans les banlieues, je suis désolé, mais c'est un résultat de cette culture de la pornographie. Il y a des dizaines de films, des dizaines, des milliers de films pornographiques qui représentent des scènes où il y a deux ou trois hommes sur une même femme ou l'inverse, où c'est la partouche généralisée. Et après, on s'étonne qu'il y ait des viols collectifs dans les banlieues. Bah, je suis désolé, les événements, les faits ont leurs conséquences.
Vous citez le président de la chaîne Pink TV qui estime que certains programmes, alors les programmes pornographiques, font partie de la culture gay. Il y a une culture ambiante qui favorise qui introduit une sorte de dérive un peu là-dedans ou...
Bien sûr, la culture ambiante fait que, puisque la liberté sexuelle a été sacralisée et l'égalité des sexualités a été sacralisée par toute la culture post-70, bien donc il y a tout un discours qui consiste à dire que la pornographie ou l'érotisme poussé à l'extrême est une expression artistique comme une autre et qu'il a le droit donc de s'exprimer tout à fait librement, sinon c'est de la censure, sinon alors on nous ressort Baudelaire, on nous ressort Flaubert, le procès contre Flaubert, etc. Mais je suis désolé, quand on entre Emma Bovary et ses amours adultères qui sont bien innocentes telles qu'elles sont décrites par Flaubert et la poésie des Fleurs du Mal qui est une poésie symbolique et la représentation de la pornographie où se mêlent de la zoophilie, de la scatophilie, enfin des choses absolument dégradantes pour l'être humain, ignobles, ça n'a rien à voir. Alors je ne vois pas au nom de quoi la pornographie serait tolérée librement. Et pourquoi il n'y aurait pas... Ça serait un tabou. Non,
les droits de l'homme restent muets sur ce sujet, même assez ambigus.
Oui, très
puisque justement, si c'est un droit, eh bien, ça s'inscrit dans le cadre des droits de l'homme. Et si on invoque la protection de la jeunesse ou même de l'individu, tout simplement, c'est aussi un droit de l'homme. On devrait pouvoir s'y référer dans un sens comme dans l'autre, si je puis dire.
Oui, vous avez raison, mais c'est là où le politiquement correct intervient, c'est qu'il y a un droit qui a plus de droits que l'autre, en quelque sorte. Ce sont des droits inégaux. Cette dialectique des droits de l'homme est une dialectique qui, souvent, sert à masquer des intérêts souvent financiers, parce que n'oublions pas que ne soyons pas innocents. L'industrie pornographique représente un chiffre d'affaires qui représente des centaines et des centaines de millions d'euros. Il y a des enjeux financiers considérables derrière. Et puis des intérêts idéologiques, quoi. Certains cherchent à protéger à tout prix. C'est un des grands tabous de l'époque, en effet, que cette idée de liberté sexuelle. Et donc tout ce qui tente à vouloir le contrôler cette idée est aujourd'hui interdit parce que on aurait l'air de toucher là le plus sacré de notre époque. Or, je pense que c'est un profond recul de la civilisation. Là aussi, je veux dire, les hommes de tout temps ont porté intérêt, c'est la nature humaine, voilà, ont porté intérêt à l'amour charnel, mais les grandes époques ont mis l'amour charnel à sa place comme un moyen et non pas comme une fin en soi.
L'idole du sexe, justement, vous avez parlé de... On se laisse aller à des idoles et à des tabous, justement, parce que le mot tabou, c'est le propre du moralement correct. Je citais justement alors, la liberté sexuelle ou l'interprétation excessive qu'on peut en avoir et cette question de l'hédonisme et du totalitarisme sexuel, parce qu'il y a toujours une mécanique qui s'impose et qui est valable pour toutes les valeurs, quelles qu'elles soient, c'est que dès lors qu'on souhaite qu'une valeur soit respectée, immédiatement, on passe pour une personne qui enfreint un droit, transgresse une liberté. Donc, inévitablement, on passe pour un oppresseur. Alors que précisément, il s'agit de combattre une forme d'oppression, celle que vous avez décrite. Il y a une mécanique perverse toujours de...
Oui,
c'est
toujours...
Qui vous fait passer pour quelqu'un d'autoritaire et d'inévitablement qui veut imposer un carcan. Et c'est la fameuse réplique sur l'ordre moral, chaque fois qu'on...
Tout à fait, mais moi, ceux qui refusent l'ordre moral, je leur demande s'ils préfèrent le désordre moral ou l'ordre immoral. Alors, qu'est-ce qu'ils préfèrent ? Non, c'est du terrorisme intellectuel, que cette stigmatisation sans cesse de l'ordre moral, ce qui fait rire, enfin, je veux dire, dans la France de 2007, où est l'ordre moral ? Quels sont, si tant est qu'il y ait dans la société des réseaux ou des forces qui voudraient imposer un ordre moral, mais quel est leur force, quel est leur moyen d'imposer un ordre moral? C'est dérisoire. Il n'y a aucun ordre moral qui menace la France aujourd'hui.
Et pourtant, ce fantasme existe et
constamment
répété.
Mais c'est un fantasme, c'est du terrorisme intellectuel. C'est un fantasme qui est brandi par certains, précisément parce que ça permet de masquer c'est à l'heure, en quelque sorte. Ça permet de, donc, au sens strict, on jette les yeux ailleurs et sans voir ce qui se déroule et qui est une entreprise de... profonde dégradation, je pense, de la société. C'est un des incidences énormes. Je suis pas un obsédé de ces questions de pornographie, mais j'en suis désolé. Il y a sur l'équilibre de la société, ça a une incidence, ça va avoir dans les années qui viennent. Et on est au début du processus, malheureusement. Les jeunes générations actuelles sont profondément atteintes dans leur mental par cette question. Et ça conduit à des gens qui ont beaucoup de difficultés à construire une vie sexuelle normale, une vie familiale normal, et à partir du moment où on n'est pas équilibré dans sa vie privée, dans sa vie intime, malheureusement, on constate que ça a des incidences sur toute la vie sociale. Et souvent, les gens qui ne sont pas équilibrés sur un plan privé ne sont pas équilibrés sur un plan professionnel, ne sont pas équilibrés dans leur rapport avec les autres, etc. Et c'est toute la société qui en pâtit.
Solzhenitsyn disait que l'on contrôlait mieux les foules par la pornographie plutôt que par les miradors.
Bien sûr, oui.
Vous y voyez une arrière-pensée politique de contrôle social, de domination, de dérivatif éventuellement ?
C'est même pas un contrôle social dans la mesure où les miradors... la phrase de Solzhenitsyn est très vraie, mais derrière le communisme, il y avait une machine. Là, ce n'est pas une machine organisée, c'est une machine devenue folle, quoi. C'est à la fois le marché de l'argent et le marché du sexe dont les intérêts se conjuguent.
Moralement correct, ordre moral, ça pourrait être une inversion, c'est une forme aussi d'ordre moral, le moralement correct.
C'est un nouvel ordre moral, tout à fait. Parce que le moralement correct nous est imposé. Il nous est imposé par le système médiatique, par les élites culturelles, bientôt et pour certains sujets par la loi. Il y a des thèmes sur lesquels qu'on peut aujourd'hui aborder qu'avec prudence. Je parle de l'homosexualité, voilà, disons les choses. Il faut mesurer ce que l'on dit. Je suis d'ailleurs très mesuré personnellement dans ma pensée sur ce sujet. Je reproche à personne d'être homosexuel, la question n'est pas là. Mais aujourd'hui, il devient difficile de dire que l'homosexualité est une sexualité qui n'est pas de la même nature que la sexualité homme-femme. Or, j'en suis désolé, moi je le pense, que ça n'est pas de la même nature. Ça ne dit rien sur la valeur humaine des homosexuels en tant que tels. La question n'est pas là.
Toujours ces tabous que vous avez évoqués. On a le sentiment de toucher le religieux. D'ailleurs, on a aussi le sentiment que certains réflexes ont déserté le domaine religieux pour se focaliser sur d'autres aspects, d'autres terrains.
Oui,
ils prennent une proportion religieuse.
Tout à fait, mais je pense que ça fait partie des paradoxes, mais il faudrait, sans faire de la psychanalyse de bazar, mais je crois que l'homme est fondamentalement quelqu'un qui a besoin de sacré. Or, comme nous sommes dans une société athée, ou collectivement, où la religion reflue, en réalité, on s'invente des dieux de substitution, des dieux avec un petit dé. Alors, il y a ceux dont on vient de parler, il y a l'argent, il y a le sexe. Les années 70 avaient un autre dieu qui était la Révolution, qui était un véritable mythe, qui est une sorte de divinité. Et ça a beaucoup compté. Ça, dans ma génération, c'était considérable. La Révolution, c'était pour les gens que je fréquentais au Quartier Latin, je n'avais pas cette divinité-là, mais le nombre de gens qui vivaient dans cette idée, dans cette attente du grand soir, c'était considérable. Et donc voilà, oui, il y a ce phénomène de substitution, on s'invente d'autres divinités.
Jean Sévillard, on marque une deuxième pause.
Jean-Luc Pinceau, le créateur de la troupe du Petit Miroir, spécialisée dans le théâtre des marionnettes chinoises, est lauréat depuis le 11 juin 2007 du prix de la Fondation franco-culturelle taïwanaise. Vous êtes amateur de théâtre, venez découvrir ce théâtre très populaire à l'origine de l'opéra chinois. Depuis le XVIe siècle, à Taïwan, les marionnettes honorent les divinités. Ce théâtre cultuel est aujourd'hui un élément fort de la culture taïwanaise. Alors installez-vous confortablement, venez écouter l'émission Point de mire et levons ensemble le rideau sur un genre théâtral qui invite au voyage. Retrouvez l'émission Point de mire, la culture taïwanaise dans le miroir des marionnettes.
Au fil des pages avec Jean Sévillard pour Moralement Correct, recherche valeur désespérément aux éditions Perrin, 224 pages. À propos desquels, justement, on a déjà pu s'exprimer depuis environ une demi-heure, Jean Sévillard. On a parlé beaucoup de pornographie, d'attitude, justement, à l'égard de la sexualité. Est-ce qu'il n'y a pas, et la période électorale est peut-être propice pour aborder cette question, une crise générale de la médiation? Est-ce que tout cela ne repose pas sur la médiation, l'absence de médiation? On est dans une société narcissique où on accepte une seule autorité, soi-même, et que tout doit désormais se recomposer à partir de cela.
Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, la grande crise qu'on a vécue dans les années 60-70 a constitué à mettre l'individu au centre de tout. L'individu est devenu la valeur suprême. Autrefois, on était encore dans une pensée traditionnelle où on pensait que l'individu devait quelque chose à la société. À partir des années 60-70, on a un basculement, on pense au fond que la société doit quelque chose à l'individu. Et donc l'individu devient, il a les droits de l'homme, il est la norme, il est l'instrument de référence à partir duquel on juge tout, on organise tout. Et donc cela produit en effet une société qui est une société du moi, qui a le culte du moi, du moi-je,
et c'est ce moi-je,
c'est mon premier chapitre, et se fait tyrannique. Il y a une sorte de tyrannie du moi-je, et en effet, qui produit une sorte de société complètement éclatée, qui est en fait une succession d'atomes juxtaposés, qui chacun défendent leurs intérêts. Ce sont des je, J-E, une société de jeux, des milliers, des millions de jeux qui défendent leur subjectivité, leurs intérêts, et qui jugent tout d'après eux. Et donc la notion d'intérêt commun, la notion de bien commun, la notion de service collectif s'efface au profit de cet individu roi.
Mais n'est-ce pas l'aboutissement logique et même rêvé de la démocratie ? Ça y est, l'individu enfin est débarrassé de tous ces carcans qui l'enfermaient pour arriver à la réalisation de soi.
Alors, si la démocratie...
Qui est le but de l'existence.
Si la démocratie, c'est cela, je me trouverais bien peu démocrate. Moi, je crois que la démocratie, la République, la Respublica, peut avoir une dimension collective qui soit respectueuse des individus évidemment. Et la tradition occidentale est respectueuse de la personne parce que la personne est importante. Maintenant, l'équilibre libre doit naître dans la société de cette convergence entre le respect de l'individu et les intérêts collectifs. Une société ne peut pas vivre sans respect des intérêts collectifs. D'ailleurs, nous contribuons tous à la société par notre contribution matérielle, nos impôts, le temps qu'on devrait donner aux autres, etc. Et donc, une société ne peut pas s'en dispenser. Or, cet effacement du « nous » au profit du « moi » est tout à fait calamiteuse parce que ça donne une société, en effet, où on a l'impression que plus personne n'a les yeux rivés sur l'intérêt commun et que une société qui erre un petit peu à l'aveugle où chacun voit ses petits intérêts à l'échelle de sa petite personne, ce qui donne une société aussi où le réflexe sur le long terme, la réflexion sur le long terme est très peu développée. Tout le monde est conscient qu'il y a des grands enjeux liés à l'environnement. Je ne suis pas spécialement écologiste, ce n'est pas des thèmes sur lesquels je n'ai jamais beaucoup travaillé et qui ne me passionnent pas, mais je suis conscient malgré tout qu'il y a des intérêts dans la défense de l'environnement. Or, tout le monde dit « oui, il faut faire ça » et puis personne ne fait rien. Personne ne fait rien parce que chacun a envie de continuer sa petite sauce et tant pis s'il pollue parce que chacun voit ses petits intérêts. Et on pourrait multiplier cet exemple. Ça donne une société donc qui ne veut pas voir le long terme parce que, après moi le déluge, quoi, chacun se raisonne comme ça. Comme en plus on a cassé la notion de famille, la notion de famille traditionnelle véhiculait en soi une vision de l'avenir parce que dans la famille traditionnelle, eh bien, on se préoccupe de que vont devenir mes enfants et les enfants de mes enfants. Quand on est dans une société où la famille est très, très fragilisée, eh bien, on ne se projette pas dans l'avenir. Donc après moi le déluge.
C'est le court terme.
Et donc on a tout un des échelons, une succession d'échelons comme ça qui ont sauté, ce qui fait que notre société donc ne se préoccupe pas du long terme, ne se préoccupe pas de l'intérêt collectif, et on a une impression, moi ça me donne le sentiment d'une société extrêmement fragile, parce que j'ai le sentiment certains jours d'une société qui erre à l'aveugle, qui n'est pas conduite, qui n'est pas dirigée, qui ne se dirige même pas elle-même, qui ne se conduit pas elle-même, qui avance parce que la machine roule. Mais le jour où il y a un problème, eh bien les problèmes ils peuvent prendre une importance considérable. Oui.
Mais ce moi-je, Jean Sevilla, est-ce que ce n'est pas le retour de balancier des grandes idéologies de masse qui ont prétendu nous apporter le bonheur pour demain
vous
et
n'avez
qui ont
pas
échoué.
Oui, vous n'avez pas tort. On paye ça aussi. Je pense que les malheurs du XXe siècle, on paye aussi une sorte de les malheurs de les guerres, les totalitarismes, l'idée de progrès. Le début du XXe siècle croyait qu'on allait vers le progrès, la paix. Avant 14, c'était la grande idéologie. Hein, on allait. Et puis tout ça s'est fracassé sur la réalité. Et il y a donc cette sorte de désenchantement qui fait qu'on est dans un repli individualiste. Il y a l'effacement de la notion de nation aussi. Le recul du concept de nation est catastrophique. Enfin, il y a des incidences extrêmement lourdes. On a désappris aux Français à l'idée qu'ils formaient une nation. On leur a appris l'idée qu'ils appartenaient à l'Europe, mais en même temps, comme on l'a vu en 2005, leur enthousiasme pour l'Europe est modéré, même s'ils sont plutôt pour la construction de l'Europe. Enfin, ils n'ont pas l'impression que ça leur donne une identité. Donc, ils n'ont pas vraiment une identité européenne, ils n'ont plus vraiment une identité française. Donc, ça donne une société de gens qui ne savent plus se définir et donc qui sont paumés.
Pour vous contredire, est-ce que les guerres n'étaient pas le fait de mythes collectifs où on a abouti à des boucheries ? Est-ce que la paix n'est pas un facteur profondément individuel ? Et ce qu'on arrive à créer en Occident depuis la Seconde Guerre mondiale, en particulier aussi ces antivaleurs que vous dénoncez, elles permettent aussi de nous faire vivre dans une sorte de paix, certes contestable, mais une paix quand même.
Je ne crois pas à cette paix-là, parce que
les valeurs collectives, c'est l'archaïsme et la guerre.
Non, les valeurs collectives ne sont pas nécessairement la guerre. La guerre, malheureusement, naît du fait qu'il y a des êtres collectifs à la surface du globe, mais ça, c'est une histoire qui date de la tour de Babel. On peut toujours rêver d'une humanité unifiée, ça n'est qu'un rêve. Le genre humain est subdivisé en civilisation, en culture, en nation, en état, et c'est un fait d'histoire qu'on n'a pas changé depuis des millénaires. Donc, l'humanité est subdivisée, ses réalités nationales, parfois, ses réalités de civilisation, ses réalités de culture, parfois s'entrechoquent. Alors, tout le rôle de la civilisation, eh bien, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on s'entrechoque le moins possible. Maintenant, que l'individualisme soit porteur de paix, je ne le crois absolument pas. Et si on veut prendre des exemples dans l'actualité pas si éloignée, eh bien, on en trouvera dans la dégradation des banlieues. Je veux dire, les émeutes de la fin 2005 se sont déroulées dans une société pacifiée, hyper individualiste. Enfin, pacifiée, non, justement, non. Dans une société hyper individualiste.
Mais communautaire aussi.
Oui.
Je commence sur des réflexes ethniques.
Oui, si l'on veut, mais la lecture ethnique n'est pas la seule pour les banlieues. Et puis, il y a les différentes communautés entre elles. Enfin bon, mais c'est quand même le monde largement de l'individualisme, parce que on s'aperçoit que les émeutiers de 2005, s'ils avaient en effet des appartenances communautaires ethniques, bon, ne tournons pas autour du pot. Ils étaient majoritairement, enfin plus que dans leur très immense majorité, issus de l'immigration, soit maghrébine, soit noire. Maintenant, ils n'avaient pas de revendication collective. Ce n'était pas pour dire « nous sommes noirs » ou « nous sommes beurre ». En réalité, c'était des milliers de gamins paumés, victimes de l'hyper-individualisme de notre monde, victimes du fait qu'ils n'ont pas été élevés, pas éduqués, qu'on ne leur a appris que le culte de l'argent, le culte de la force, le culte de la violence, parce que personne, comme ils sont perdus et qu'ils sont dans des milieux sociaux perdus, personne ne leur a donné un minimum d'éducation. Et tous ces gamins-là sont... S'ils ont un culte, c'est celui des Nike, d'avoir les plus belles Nike, et d'avoir le plus de thunes possible, comme ils disent, etc. etc. Donc ce sont des hyper-individualistes. Leur hyper-individualisme, précisément, les a conduits à la plus grande violence, parce que parce qu'ils sont dans une situation, au fond, dans une telle impasse comme ils ne savent malheureusement pas s'exprimer parce qu'on ne leur a pas appris à s'exprimer, comme leur langage est, on va dire ça pour être gentil, est plutôt pauvre, ils croient s'en tirer par la violence.
Alors vous avez cité la thune, hein, le culte de l'argent, et pourtant, parce qu'on a beaucoup parlé de famille, de pornographie, d'éducation, vous écrivez dans un chapitre consacré au travail, au droit au non-travail. 6 Français sur 10 estiment que ce serait une bonne chose que le travail prenne une place moins grande dans la vie. Quoi d'étonnant à cela ? Sur fond de civilisation des loisirs, tout le discours officiel depuis 20 ans a exalté la fin du travail, le partage du travail ou la réduction du travail. Cette fin du travail, c'est un trait particulièrement moderne. Pourquoi est-ce une antivaleur en soi ? Puisque tout l'effort de l'humanité a été d'en finir avec le travail laborieux, avec la pénibilité du travail, et personne ne saurait remettre en cause la mécanisation, le fait que notre travail soit facilité.
On peut rendre le travail moins pénible physiquement, il le faut en effet, mais ça ne veut pas dire qu'on va ôter le travail. Une société qui est de non-travail, c'est une société qui s'auto-détruit. Le non-travail était un idéal aristocratique qu'on trouvait en Grèce, par exemple, hein, qu'on trouvait aussi sous l'Ancien Régime, tout à fait. Mais la noblesse qui dédaignait le travail en tant que tel avait une fonction sociale qui était une forme de travail malgré tout. Elle était censée faire la guerre et puis elle a eu une fonction par ses propriétés terriennes. Elle faisait aussi tourner la machine économique, qu'on le veuille ou non. Et puis parce qu'elle faisait du mécénat, donc elle produisait quelque chose. Elle produisait quelque chose dans la société. Or, aujourd'hui, tout le développement de la culture contemporaine, depuis une trentaine d'années, a conduit à dévaloriser l'idée qu'il faut travailler. Or, j'en suis désolé, mais ça n'est pourtant que du bon sens. Mais il est évident que moins il y a de gens qui travaillent, moins il y a de richesses qui sont produites dans une société, et donc moins il y aura de gens qui profiteront de ces richesses. J'en suis désolé, mais pour qu'il y ait plus de richesses, il faut qu'il y ait plus de gens qui travaillent et plus de gens qui travaillent plus. On ne peut pas partager le néant, on ne peut pas partager le vide. C'est en produisant beaucoup qu'on peut distribuer de la richesse.
N'est-ce pas une façon d'accoutumer le français, enfin le français ou l'occidental, au fait que le travail sera raréfiant? Ben, il va falloir de toute façon finir avec lui puisqu'il n'en aura pas. Mais oui. Ça devient un mécanisme peut-être un peu plus pervers. Mais en tout cas, ça atteint cette idée que le travail, qui est le socle de notre civilisation aujourd'hui, n'est pas une valeur évidente. Alors pourquoi travailler? Pourquoi transmettre si on ne travaille pas? Ou si on travaille moins? Puisque oui. Le travail est indispensable, est associé forcément à la médiation. On marque une troisième pause, j'en sais bien. On vous retrouve juste après.
La maladie d'Alzheimer est un domaine de la recherche qui est en friche. Il reste encore beaucoup à découvrir. Canal Académie vous propose un état des lieux avec professeur Jean-Jacques Auve, spécialiste du vieillissement du cerveau, et le docteur Jean Petitpré, qui est président de la Fondation France Alzheimer. Nous vous proposons également de découvrir cette association France Alzheimer qui œuvre à une meilleure prise en charge de la maladie et vient en aide aux familles. Ces deux émissions sont disponibles sur notre site.
Au fil des pages, donc, avec Jean Sévilla, historien, journaliste, essayiste, qui nous gratifie d'un troisième essai après Le terrorisme intellectuel et historiquement correct, déjà paru aux éditions Perrin. Moralement correct avec Recherche valeur désespérément en sous-titre. Également aux éditions Perrin, 224 pages, où sont passées par le remenu les valeurs ou les fausses valeurs, ou les nouvelles valeurs, ou le nouvel ordre moral. On parlera, comme on voudra, de cette mutation culturelle telle que vous la décrivez depuis les années 70, Jean Sévilla. Après le travail, on peut aborder peut-être un point pour ce dernier quart d'heure qui nous reste. Vous posez la question d'ailleurs, peut-on vivre sans valeurs communes? Est-ce une question à laquelle vous avez tenté d'apporter une réponse? J'imagine qu'évidemment c'est à peu près non. Ou est-ce que ces valeurs communes, elles existent quand même, mais on ne les a peut-être pas identifiées? C'est en mutation, en transition. Est-ce qu'on peut remplacer les valeurs d'autrefois par d'autres valeurs? Ou bien les valeurs, par définition, c'est intangible, c'est valable de tout temps, de toute civilisation, de toute société?
Moi, je crois que les valeurs sont intangibles. Je crois qu'elles peuvent connaître, évidemment, des petites transformations ou des petites présentations différentes selon l'époque, le lieu, mais les aspirations fondamentales de l'être humain sont identiques pour une raison très simple, qui est que moi je crois fondamentalement que l'être humain ne change pas. Je crois qu'il y a une nature humaine. Je crois qu'il y a une nature humaine et que cette nature humaine n'a pas changé et ne changera jamais. Et donc les aspirations de l'être humain sont besoin d'autorité, sont besoin d'être soumis à une autorité, sont besoin d'être soumis aussi de vivre une certaine forme de solidarité avec ses semblables, sont besoin de continuité, son besoin d'être l'héritier de quelque chose et de transmettre quelque chose. Tout ça, ce sont des besoins anthropologiques qui, à mon avis, ne changent pas, qui sont inscrits au plus profond de l'homme. Alors, aujourd'hui, ces besoins, éventuellement, sont niés, ignorés, mutilés, etc. etc. Mais précisément, ça induit toutes ces maladies sociales, parce que ça induit ce malaise, parce que les gens ne sont pas... Les gens, au fond, sont malheureux. On a donné à l'individu aujourd'hui toutes les libertés, mais au fond, il ne sait pas quoi faire de ces libertés. Il en est profondément malheureux. Et moi, je suis très frappé, là aussi, bon, je ne veux pas avoir l'air de faire le moraliste, je n'ai pas à juger mes contemporains, je n'ai pas titre à cela, mais je trouve quand même que c'est très frappant de voir le nombre de gens qu'il y a dans notre société qui sont, si vous me passez l'expression, qui sont paumés. Les gens, ils savent pas quel sens a leur vie, ils savent pas s'ils aiment une femme ou s'ils ne l'aiment pas, si combien de temps ça doit durer, quand ils ont un enfant ou des enfants, ils savent pas comment on fait pour les élever. Enfin, les repères les plus simples les paraissent aujourd'hui des choses qui étaient d'évidence encore quand j'ai l'air de parler comme un vieux machin, pardonnez-moi, mais des choses qui étaient d'évidence quand j'avais 20 ans, aujourd'hui on a l'impression que quand on les explique, on a l'air d'ouvrir les yeux à des gens qui disent « Ah, merci, merci, mais pour moi des choses de simple bon sens, on a l'impression qu'on a été perdus. Si
vous dites que l'homme préfère somme toute la sécurité à la liberté.
Oui, moi ça j'en suis absolument persuadé, absolument persuadé. D'ailleurs, regardez le goût qu'ont les gens aujourd'hui pour être fonctionnaires. C'est une sous une forme dérivée et un petit peu réduite, mais c'est ça au besoin, c'est que les gens ont peur du risque et donc les gens ont besoin de normes, les gens ont besoin de rails, ont besoin d'être conduits. Alors,
et pourtant les normes sont à profusion dans notre société. Pour
oui,
tout, il y a
non,
des normes.
Non, mais alors. Vous avez raison. Alors ça, c'est une bonne objection qui n'est qu'un paradoxe apparent. En effet, nous sommes à la fois d'une société qui exalte l'individu, mais une société qui limite au maximum les libertés individuelles. Alors pourquoi cette contradiction? Vous me direz que c'est une contradiction. Mais la contradiction, elle est très simple. J'ai réfléchi à cette question et je me suis posé cette question. En réalité, c'est que précisément, à partir du moment où il n'y a plus de normes qui soient librement acceptées collectivement, eh bien, comme il faut bien un minimum de fonctionnement de la société, eh bien, la société se fait procédurière, procédurale. C'est-à-dire que c'est l'État, au fond, qui va prendre en charge eh bien,
l'absence d'éthique de responsabilité
pour que la machine société continue à fonctionner, eh bien, l'État va poser des normes, des codes, et pour que ça continue à fonctionner. Résultat, on est complètement encadré, alors que nous sommes dans un temps de liberté individuelle ultra proclamée sur un plan philosophique, eh bien, dans la pratique, nos vraies libertés individuelles sont extrêmement limitées parce que c'est l'État qui a pris en charge le fonctionnement de la machine sociale.
Du coup, jamais l'État n'a eu un rôle de si puissant qu'aujourd'hui.
Ah, tout à fait, mais nous sommes une société, alors on ne va pas dire totalitaire parce qu'il faut garder en sens son mot et ça serait insulter les victimes du nazisme et du communisme que de parler de société totalitaire aujourd'hui. Mais il y a quelque chose de profondément tyrannique, oui, je crois, dans le fonctionnement de notre démocratie. Enfin, c'est assez paradoxal, mais on a une forme de démocratie totalitaire.
Et on exalte l'individu, et cependant, on a le sentiment aussi que tout se produit en fonction d'un seul critère, qui est celui de la massification. Il suffit de voir les modes des grands médias audiovisuels, c'est toujours l'audience, le plus grand nombre qui prime. Alors qu'on ne cesse de parler de l'individu qui devrait donc différencier les choses.
Oui, mais c'est aussi le règne de la facilité, le règne de la masse, le règne de... Et puis la masse, c'est aussi l'argent. Je reviens souvent sur cette question d'argent depuis le début de notre entretien, mais il faut bien voir la place qu'a pris l'argent dans notre société. Moi, je trouve ça ahurissant. On est vraiment une société d'argent. Et alors, je n'en fais pas une lecture de gauche, une lecture marxiste de cette place de l'argent dans notre société. Ça n'est pas à
les Khmers rouges ont voulu supprimer l'argent.
Oui, oui, c'est pas à cause du capitalisme, c'est pas à cause du libéralisme, etc. Je ne suis pas Arlette Laguillé. Maintenant, du point de vue des grandes valeurs de la civilisation, je constate que l'hégémonie des valeurs d'argent était un profond recul dans notre histoire. Enfin, regardez le XVIIe siècle où il y avait des grandes fortunes. Des immenses fortunes, mais il y avait aussi des gens qui étaient pauvres, mais le grand siècle a vécu avec des valeurs collectives comme l'honneur. Qui parle de l'honneur aujourd'hui? Je veux dire, l'honneur est une valeur qui a disparu. Enfin, c'est sidérant. J'en ai pas assez parlé dans mon livre. L'honneur, quelque chose qui semble avoir disparu.
Honorablement correct.
Oui, oui.
Le prochain essai.
Il y aurait beaucoup à dire.
Oui, non, mais c'est vrai que des valeurs ont été englouties complètement. Alors peut-être reviendront-elles un jour aussi, puisque
peut-être.
C'est ce qui explique aussi le. Si l'on. Voilà, ça nous emmènerait un petit peu trop loin, mais le fait que le people fonctionne énormément et qu'il y a un goût particulièrement pour les familles princières, c'est bien qu'on se réfère à des valeurs du passé qui sont inaltérables et qui n'ont pas été polluées par l'argent, justement.
Oui, tout à fait. Oui, non, mais il y a, sous forme déguisée, il y a en effet l'aspiration à quelque chose de plus qui soit au-delà de l'argent. Oui, je pense.
Est-ce aussi que vous diriez, Jean Sévillard, que le moralement correct, ça concerne particulièrement la société française ou c'est un trait de toutes les sociétés occidentales?
Alors,
en Suisse, par exemple, on respecte un petit peu plus le bien commun, l'intérêt collectif.
Vous avez raison, et les Américains aussi. Alors, c'est un trait de la société occidentale. C'est cette grande révolution de l'individu est un trait de l'ensemble de la société occidentale. Un petit peu moins aux États-Unis, encore que. Mais on trouve cette même révolution au Canada, et le Canada, ça n'est jamais que l'Amérique, même quand elle parle français. Jamais que c'est l'Amérique. Alors simplement, s'il faut entrer dans le détail, une révolution de civilisation ne se déroule pas un temps X au même endroit à la même seconde, voilà. Et donc il y a des différences, on s'aperçoit qu'il y a des certains pays paradoxalement là où vous les entendez pas sont question comme le mariage homosexuel, on n'aurait pas pour quelqu'un de ma génération, c'est assez incroyable de penser que l'Espagne aurait été un des premiers pays européens. Moi, quand j'étais jeune, c'était encore le général Franco qui gouvernait l'Espagne. Enfin, de penser quelle révolution, de penser que l'Espagne aurait été un des premiers pays européens à légaliser le mariage homosexuel. En France, il y a encore des fortes réticences. Je pense que ces réticences finiront malheureusement, je crains qu'elles ne finissent par céder. Mais bon, donc c'est pour dire que tous les pays d'Europe, tous les pays occidentaux ne sont pas au même endroit au même moment. Moi qui connais bien les pays germaniques, je connais très bien l'Autriche, c'est un pays où il y a encore un sens des traditions du collectif qui est important, mais on s'aperçoit par exemple que la révolution familiale est en train de s'opérer de la même façon. Tout ça est lié à un grand bouleversement de civilisation qui est, comme je l'ai dit, la place prise par l'individu. C'est aussi, il faut le dire, puisque c'est un facteur de civilisation, une laïcisation de la société, une sécularisation de nos sociétés. Je veux dire, le recul du religieux, le recul de la place de l'Église dans les sociétés occidentales est un facteur, on n'en a pas encore parlé depuis le début de notre entretien, mais historiquement, est un facteur important dans cette évolution.
Dans une société capitaliste, pourtant, certains, on pourrait le penser, résistent mieux que d'autres. Si on prend le cas du Japon, on a le sentiment que c'est une grande puissance qui tient quand même à ses valeurs. Et qui n'a pas capitulé devant ses valeurs.
Oui, alors je ne suis pas spécialiste de la société japonaise pour en parler avec expertise, mais ce que j'ai pu en lire, en effet, laisse penser qu'on peut, en effet, avoir...
Il n'y a pas une fatalité du capitalisme.
Qu'on peut avoir un développement moderne, un développement technologique, économique, entrer dans la modernité sans renoncer à ses valeurs, c'est possible, oui.
Un dernier point, Jean Sévillat, si vous le voulez bien. Vous avez écrit Historiquement Correct, vous revenez dans Historiquement Correct sur des périodes de l'histoire litigieuses pour notre imaginaire collectif et qui suscitent encore pas mal de controverses, toutes ces blessures des croisades jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas eu dans l'histoire des périodes où la morale a quand même chaviré à plusieurs reprises, où on était dans des périodes d'instabilité complète, où on pouvait se demander aussi s'il n'y avait pas un moralement correct et étouffant? Est-ce que, somme toute, l'histoire ne repasse pas les plats, là aussi?
Oui, mais ça, je n'idéalise absolument pas le passé. D'ailleurs, d'abord, je dis que je ne fais pas d'illusions sur l'être humain. Hein. Je veux dire, l'être humain, il se passerait volontiers assez de morale. Hein. À part les héros et les saints, vous savez, se laisser aller à ses instincts, c'est assez naturel. Hein. Et précisément, tout le rôle de la civilisation, de la morale, de l'éducation, de la religion, tout ce qu'on veut, c'est d'essayer de tirer l'homme vers le haut, parce que sinon, il dégringole très vite vers le bas. Bon, de ce point de vue-là, je n'idéalise pas l'être humain. Et il y a eu des périodes de l'histoire, en effet, où il y a eu un grand bouleversement des valeurs, c'est certain. Moi, dans ce livre, j'analyse le bouleversement des valeurs que nous vivons à la charnière du XXe et du XXIe siècle. Il y en a eu d'autres dans l'histoire. Ce qui est assez relativement nouveau et ce dont on ne voit pas encore comment on va sortir, précisément, c'est cette importance extrême prise par l'individu. Comment faire réadopter des valeurs collectives à une société qui se fonde sur l'individu, qui est assez rétive à la notion de collectivité, ça ne sera pas facile. Je pense qu'on y arrivera parce que toutes les crises de civilisation, on les a surmontées. Donc celle-là, on la surmontera comme les autres, sauf à sombrer dans la barbarie, ce que je n'espère pas. Mais comment, moi, je ne sais pas encore. C'est une question que je pose. Et ce livre se veut une contribution à ce débat.
Merci beaucoup, Jean Sévillat. Et bien justement, cette contribution à cette réflexion sur les valeurs avec Moralement Correct, Recherche Valeur Désespérément, aux éditions Perrin. Jean Sévillat, je rappelle que vous êtes journaliste, historien et essayiste. Merci. Thank you.